Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous suivre dans Radio Foot International ce soir en direct puisque nous venons à la fin des matchs de Ligue des Champions de cette troisième soirée. Et c'est parti.
Moi champion, Kylian Mbappé, nouveau vivre de Kylian Mbappé. Champion qui Kylian Mbappé, presto campo de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé.
Des Bulgares, des rappeurs bulgares qui chantent les louanges de l'homme de la soirée à Bruges, Kylian Mbappé, remplaçant et qui change un match, qui contribue aussi au score fleuve du Paris Saint-Germain. Un triplé, le sien, ajouté au doublé d'Icardi. Et voilà des Parisiens vainqueurs 5-0 contre les Brugeois. Les Parisiens presque qualifiés pour les huitièmes de finale. Zinedine Zidane respire, lui, le Real Madrid aussi après la victoire des Merengues sur la pelouse de Galatasaray. Une victoire par le plus petit écart et dans le doute et la douleur, mais une victoire quand même et un sursis pour l'entraîneur grâce au but de Toni Kroos. La Juventus respire aussi victorieuse en fin de partie après avoir été longtemps menée par le Lokomotiv de Moscou. C'est Paolo Dybala qui offre la victoire ovationnée à Turin. Tous les résultats, donc tous les scores de cette soirée, des scores fleuves et des doublés en pagaille, doublés d'Aguero, de Lewandowski, de Son, d'Icardi, de Dybala et ensuite deux triplés, celui de Mbappé et celui de Sterling. Enfin, nous évoquerons les Ballons d'Or 2019 car c'est parti, la liste des 30 footballeurs parmi lesquels se trouve donc le futur vainqueur est sorti, publié hier soir par France Football, une liste qui comporte toujours Messi et Cristiano, mais aussi le lion sénégalais Sadio Mané, pas de Luka Modric, vainqueur l'an passé pourtant, et ni Neymar. Invité donc ce soir pour évoquer ces sujets, Patrick Juillard qui continue la soirée avec nous. Bonsoir Patrick.
Je vais finir par dormir, si. Bonsoir Annie et bonsoir à
on
tous.
On vous laissera au chaud dans le studio. Et puis Nabil Djellit nous a rejoint aussi.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. J'espère que Patrick a été aussi efficace que Kylian Mbappé.
Patrick Juillard
les auditeurs le
diront. Toujours efficace, je suis sûre que les auditeurs sont d'accord avec moi. Laurent Salerno est à la réalisation, David Finzel surveille tout derrière et notamment tous ceux qui parlent que vous pourrez entendre dans cette émission. Radio Foot, c'est parti.
André Di Maria, le centre Icardi et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Sur ce débordement d'André Di Maria, le centre est parfait. La conclusion chirurgicale, 7 minutes de jeu, déjà 1-0 pour le club de la capitale. Mbappé est retrouvé dans la surface de réparation, le petit enchaînement Di Maria, de nouveau Mignolet, Mbappé 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Attention Kylian Mbappé de nouveau avec Icardi et 2-3, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le quatrième but parisien, le doublé de Kylian Mbappé dans son style de panthère, évidemment avec un petit dribble chaloupé pour éviter un défenseur, pour éviter Mignolet. La frappe, elle n'est pas puissante, mais elle est tellement bien placée. Attention à Mbappé peut-être pour le triplé. Le service de Di Maria est excellent. Le plat du pied gauche de Mbappé de même, mais ça fait 5-0 pour le Paris Saint-Germain.
Net et simple, la victoire du Paris Saint-Germain en Belgique. Les Parisiens qui ont inscrit 3 buts, donc le premier très tôt, 5 buts pardon, et le premier très très tôt, les autres en deuxième mi-temps. Mais ce qui leur a permis surtout de gérer ce match plutôt tranquillement, et c'est ce que vous avez dû constater. Thomas Saint-Léger, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Alors Thomas, c'est ce qu'on peut dire quand même, le Paris Saint-Germain ce soir, c'est faciliter sa victoire.
Oui, c'est faciliter la tâche en marquant très tôt en fait. Le but d'Icardi, il intervient à la 7e minute de jeu. Derrière, il suffisait entre guillemets de faire le dos rond face à des Belges qui, malgré leurs intentions, manquaient quand même de talent à ce niveau-là de la compétition, et de jouer les contres. Et l'entrée la vitesse de Mbappé a permis de concrétiser tout cela avec donc le triplé et la passe décisive pour Icardi. Il y avait des boulevards à partir de l'heure de jeu. Les Belges évidemment se sont lancés à l'abordage. Leur défense à 3 laissait pas mal d'espace et évidemment la vitesse, je vous le disais, de Mbappé a permis au Paris Saint-Germain de gagner sur ce score très très large.
Mmh, ouais, ce qu'on voit souvent quand Kylian Mbappé entre en jeu, et on y viendra. Sur l'ensemble du match, Patrick Juillard.
Bah, un PSG qui a été parfait, c'est-à-dire qu'il a concrétisé
d'abord géré
son premier temps fort en ouvrant la marque, mm-hmm. qui a un petit peu subi, mais sans être vraiment mis en danger, parce que effectivement le FC Bruges a eu des intentions offensives, n'a pas changé de plan de jeu, même quand ils sont mis à quand l'avantage s'est creusé pour le PSG, ils ont continué à rester sur la même idée, mais il manquait trop d'efficacité dans les deux surfaces pour espérer faire quoi que ce soit. Et puis un PSG vraiment impérial, c'est-à-dire sans faire un très grand match au milieu de terrain, l'équipe était à sa main. Et après la différence de qualité entre les deux bandes touches a vraiment creusé un gouffre entre les deux équipes.
Enfin, c'est surtout la différence entre Kylian Mbappé et Eric Maxime Choupo-Moting qui a créé la différence. C'est un peu dur pour Eric Maxime Choupo-Moting, mais c'est vrai que c'est un peu comme Mike Tyson avec Kylian Mbappé, je veux dire.
On va venir après sur la prestation de Kylian Mbappé, effectivement, qui a changé ce match. Mais sur l'ensemble, Nabil, le Paris Saint-Germain, même si c'est une équipe qui est sans Neymar, mais ça, elle en a pris l'habitude ces derniers temps.
Ça va être difficile de faire cohabiter tout le monde.
Elle était sans Idriss Agueil.
Ouais. Ça s'est senti.
Ça s'est senti, certes, mais surtout en plus ceux qui étaient censés le remplacer, qui se blessent. D'abord Herrera, ensuite. Ouais. Thomas Meunier en milieu de terrain, peut-être mauvaise passe encore par le Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est vrai qu'on a vu Paris gérer ce match.
Oui, si vous leur demandez leur opinion, effectivement, ils n'ont pas dû trop souffrir sur ce match-là. Et même quand le FC Bruges a repris un petit peu de confiance et parfois même un petit peu le contrôle du milieu de terrain, je trouvais Verratti un peu décevant avec beaucoup de déchets sur ce match. Donc, je pense
un carton jaune parce qu'il s'est encore.
Voilà, il est un peu retombé dans ses travers. Donc, je pense que la présence de Gueye et de Marquinhos, même si Marquinhos était là, il est définitivement installé en numéro 6, Marquinhos, parce que même sur des matchs où finalement vous n'êtes pas obligé de
mettre en numéro 6. Tuchel l'avait dit, il l'aime à ce poste-là, c'est un poste naturel, dit-il.
Ça nous renvoie au choix fort qu'il va devoir faire bientôt, parce que si Marquinhos est installé en numéro 6, si Gueye est indispensable à Verratti, et si Verratti est indispensable au Paris Saint-Germain, va falloir trancher dans le vif.
Moi, je suis pas si sûr que Marquinhos soit installé en numéro 6. Je pense que c'est une option.
Ça dépend des soirs.
Qui tient
la route.
C'est
une option qui se répète, en tout cas.
Non, mais c'est une option qui tient la route quand vous jouez une opposition qui présente pas une densité énorme au milieu de terrain, ce qui était le cas ce soir avec un jeu qui passait beaucoup sur les côtés, donc qui déshabillait un petit peu l'axe, puisque le jeu du FC Bruges passait par Persitao à gauche et Diata de l'autre côté. Pas tellement par le milieu. Moi, je vois mieux Marquinhos en défense. C'est là qu'il est très fort et qu'il peut faire jouer son jeu de tête. Et plutôt Verratti et Gueye en milieu sur les gros matchs. Je peux me tromper, mais à long terme, je vois plutôt Marquinhos retourner en défense. Mais
moi, j'y crois pas une seconde, parce que ça veut dire jouer avec les quatre devant, faire des efforts défensifs. Alors, soit tout le monde est en mode, excusez-moi l'expression, gladiator. Moi, j'allais dire autre chose, mais gladiator, c'est mieux. Mais on sent que ce Paris Saint-Germain.
Mais ça peut être des tests aussi de Tuchel en pensant à plus tard.
Oui, Marquinhos à Nice, c'est depuis la saison dernière qu'il est numéro 6.
Exactement.
Ça se pérennise dans le temps. Moi, je crois pas que ça soit un test.
Non, mais il fait des déclarations régulièrement en disant, moi, je crois qu'il est bien là, quoi. Il l'a replacé là et il n'en démord pas.
Pour l'équilibre de cette équipe, on a compris qu'il avait trouvé un milieu de terrain qui était aujourd'hui un peu comme à l'époque de Laurent Blanc, avec dans un autre registre, plus dans la possession, avec Thiago Motta, Verratti ou Rabiot ou Matuidi. On a l'impression qu'il a trouvé un triangle aujourd'hui qui est le cœur du jeu du Paris Saint-Germain. Ensuite, il faudra faire cohabiter, parce que très sincèrement, on peut en discuter pendant longtemps du match du FC Bruges, mais dans la saison du Paris Saint-Germain, c'est anecdotique. Je veux dire, ils ont battu une équipe qui est une équipe de Ligue 1, quoi.
Huitième de Ligue 1.
Voilà, huitième de Ligue 1. Oui. Et eux, ils se sont mis en mode Ligue des Champions avec un joueur qui est en mode extraterrestre.
Je vous propose d'écouter le capitaine de cette équipe, le Monstro, comme on le surnomme aussi, le défenseur, lui, défenseur central, toujours à son poste, et toujours là, et toujours sûr, Thiago Silva.
Souvent, quand on arrive au moment de difficulté, on perd la tête, et aujourd'hui, c'était pas comme ça. Même si on trouvait beaucoup de difficultés en première période, on était solide défensivement, on était très intelligent, attendez que la première période c'est fini pour mettre en place un peu de changement tactique. Et c'est ça que le coach l'a fait. Et je crois que c'est toujours là qu'on vient de voir rentrer très très bien. Je suis content pour lui parce qu'il vient d'une blessure. Et toujours quand un joueur vient d'une blessure, c'est toujours difficile de revenir. Mais il est tout de suite là, toujours présent. Je crois qu'un groupe de qualité, on ne fait pas seulement 11 joueurs, mais 25, 24. Je crois que tout le monde est prêt pour jouer.
C'est peut-être ça, sans doute, la clé pour Thomas Tuchel, Thomas de Saint-Léger, c'est qu'il peut compter sur un banc élargi et même s'il y a beaucoup de blessés dans son équipe, il y a toujours le choix.
Oui, il y a le choix et il y a un attaquant. On se posait la question avec le retour prochain de Cavani s'il allait continuer à jouer. Et pour moi, puisqu'on parlait justement avant cela des cas personnels, le joueur qui a pour moi marqué le plus de points dans ces micro-luttes à des postes, c'est Icardi parce qu'il a été diabolique en termes de réalisme. Deux occasions, deux buts. Dans son style, et puis il a été extrêmement efficace quand il a fallu faire le dos rond, quand Bruges avait le ballon. Il a conservé des ballons chauds, des déviations souvent bien senties. On commence à voir le joueur qu'on nous avait vendu quand il est arrivé cet été de l'Inter Milan, et je pense que Cavani risque de connaître quelques difficultés pour retrouver sa place devant.
Oui, d'ailleurs, Cavani qui aurait aimé rentrer et qui, à cause de la blessure de Herrera, n'a pas pu finalement fouler la pelouse.
Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il serait rentré ou pas parce qu'il y avait Sarabia qui s'est chauffé en même temps, on ne le saura jamais. De toute façon, au moment où Diallo rentre, il reste une dizaine de minutes, je crois. Donc, s'il avait joué Cavani, ça aurait été 5-10 minutes. Ça aurait été du domaine de l'anecdotique, je pense.
Merci beaucoup, Thomas Saint-Léger. Je sais que vous allez partir guetter les joueurs à la sortie du vestiaire. Donc, on vous laisse aller dans les...
Coursives.
Dans les coursives, voilà, chercher le mot. Dans les coursives du stade de.
J'y
de
cours alors.
Courez dans les coursives. Merci beaucoup, Thomas. À très bientôt.
Tard.
Oui, à plus tard. Bon retour. On vous retrouvera à Lille demain d'ailleurs. Je le dis à nos auditeurs. Bruges a été dépassé. Débordé.
Patrick a utilisé un terme, à mon avis, qui explique beaucoup de choses, même s'il y a du talent du côté de Bruges, avec Persita ou Crépin Diata, par exemple. Il y a un moment, Annie, la réalité des rapports de force, l'écart est tel que surtout lorsque
le Paris Saint-Germain... Ils avaient tenu tête au Real Madrid chez eux. Donc,
le Real est malade, Annie.
C'est une bonne équipe d'Europa League, le FC Bruges. Pour moi, voilà, je veux dire, il y a une classe, il y a un monde d'écart. C'est un petit poussé par rapport au Paris Saint-Germain. Faut pas se leurrer. Et ce soir, ils ont été rattrapés par la réalité.
Ouais. Et puis ils avaient un schéma effectivement assez risqué avec une défense à trois et très peu de. C'est parfois on dit que les équipes jouent à trois, mais en réalité elles jouent à cinq quand vous avez deux arrières latéraux très bas. Là, c'était une défense à trois avec des côtés très hauts et donc beaucoup de. Quand elles perdaient le ballon, il y avait un gros trou entre le milieu et la défense. Dans lequel les Parisiens se sont engouffrés. Donc en fait, je trouve qu'ils ont pris beaucoup de risques. C'est tout à leur honneur. Les intentions, moi, je les trouve très louables. Et on disait que c'était une équipe moyenne de Ligue 1, mais il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1. Quand elles affrontent le PSG, elles sont pas aussi ambitieuses dans les intentions. Mais après, effectivement, la différence de niveau fait que, et surtout avec l'entrée, la différence de banc, surtout quand le PSG a fait rentrer ses remplaçants, on voit l'écart qu'il y a.
Et évidemment, l'entrée de Kylian Mbappé a tout changé dans cette équipe. Accélération, complicité, passe décisive, on l'a vu. Il est rentré d'ailleurs au vestiaire tout souriant, Kylian Mbappé. Il est allé évidemment saluer les supporters venus jusqu'à Bruges avec ses camarades, mais on l'a vu aussi avec son ballon coincé sous le maillot. Il ne voulait pas qu'on lui prenne parce que le triplé lui donnait ce ballon. Écoutons-le, Kylian Mbappé, à la sortie du terrain et montrer que pour lui, quand il n'est pas titulaire, c'est une vraie punition, comme pour un gamin.
Je voulais débuter, je pensais que j'allais débuter. le coach a choisi et voilà, il faut accepter. Et je voulais rentrer et montrer que voilà, c'est difficile de se passer de moi. Quand j'étais pas là, les autres ont très bien joué. Et il faut montrer, voilà, je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l'équipe au maximum. Là, le foot est une passion, j'adore jouer au foot. Ça fait 2 mois que j'ai pas pu jouer un match de foot. C'était très douloureux. Maintenant, voilà, j'ai la chance de revenir. Et bien sûr que voilà, je veux jouer tous les matchs, je veux reprendre le rythme que j'avais avant et remettre des buts. On dirait qu'on a une première mi-temps un peu difficile, mais on avait fait l'essentiel en marquant le premier but. Après, c'est le but de ma présence, c'est d'aider l'équipe comme les autres aussi. Donc on va pas dire que c'est une victoire de Kylian, c'est une victoire du PSG.
Oui, alors il dit, quand il dit c'est pas une victoire de Kylian, c'est parce qu'on le relance, hein, notre confrère de RMC Sport qui retransmettait le match dit est-ce que c'est une victoire de Kylian, et il dit ah ben non, on va pas dire ça, il le dit. Mais par contre, c'est vrai que ces quelques mots montraient que c'est difficile de se passer de moi, ah, oui. Nabil. Alors, il a certes raison, mais a-t-il raison de le dire?
C'est difficile de...
Est-ce que parce qu'il a 20 ans,
on va lui pardonner, mais au moins ça révèle son esprit de compétition. Et puis surtout, il y a un match avec les autres, mais il y a un match dans le match. C'est aussi ça le foot de haut niveau. Et on fait pas de social. Hein. Ça fait 2 mois qu'il est pas là. Il sait que les autres prennent de la confiance. Certains s'installent. Icardi vient d'arriver. Il lorgne sur la même place parce que moi, vous pouvez m'expliquer comme vous voulez. Hein. Il sait que Cavani est sur la fin. Et quand il voit débarquer Icardi, il se dit attends, Icardi, il est sur le même périmètre que moi. C'est-à-dire qu'il est sur l'axe. Donc alors évidemment. Sur le terrain, il va être collectif et on l'a vu, il y a pas de souci, mais c'est voilà, il veut être le meilleur des meilleurs, tout simplement, et ça commence par ses coéquipiers. Mais c'est intéressant, non pas par rapport à Icardi, mais c'est intéressant sur son esprit également de compétition qu'on peut imaginer sous-jacent avec Neymar, parce que celui qui boxe dans la même catégorie que lui.
C'est Neymar.
Mm-hmm. C'est pas le même registre, c'est-à-dire que
avec Neymar, non.
Bah pour le Ballon d'Or, oui, il risque de se retrouver.
Là, il y a pas de lutte pour le Ballon d'Or. Neymar est pas dans les 30 déjà. Donc,
non, mais je veux dire à terme.
À terme, oui, on verra.
À long terme,
ils seront, à mon avis, la lutte pour le Ballon d'Or aura peut-être lieu quand Neymar sera plus au PSG. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On n'en est pas encore au mercato. Mais
Neymar ou Mbappé.
Oui, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Bref, mais tout ça pour vous dire que oui, effectivement, la lutte est avec Neymar, mais. Et ce que j'ai apprécié, moi, de Mbappé, c'est qu'il a tout de suite su adapter son jeu à la réalité du jour. C'est-à-dire que
il a une vision.
Il s'est transformé en joueur de contre-attaque instantanément.
Bah oui, c'est le registre dans lequel il peut le plus exceller aussi avec sa vitesse et sa vélocité.
Là, il a eu beaucoup d'espace. Di Maria, je trouvais vraiment exceptionnel depuis un ou deux mois, là, je trouve.
Exceptionnel en passe décisive ce soir.
Il me fait presque oublier Neymar. Parce que je trouve qu'il est dans le bon tempo, il est très collectif. C'est un joueur qui parfois a eu tendance à trop en faire, et là, je le trouve vraiment très juste et efficace dans son jeu. Et ça fait très mal quand ils sont ensemble à ce niveau-là. Moi, après, sur la complémentarité avec Icardi sur le match, pour moi, les deux peuvent très bien être associés. C'est-à-dire, on a un joueur,
c'est ce qu'on a vu, en tout
un
cas,
attaquant
parce que...
plutôt fixe qui peut jouer en déviation, qui est malin dans la conservation, c'est Icardi. Icardi,
qui
est aussi hyper efficace, mais plus dans un registre de pur finisseur de surface. Mmh. Et Mbappé, lui, il peut couvrir plus de terrain. Il peut aller retoucher des ballons au milieu, être dans la complémentarité avec des Di Maria et des Verratti, par exemple. Je pense qu'on peut très bien les associer. La vraie question pour moi, c'est à Tuchel d'y répondre, c'est est-ce que le 4-3-3 est un schéma immuable et indépassable au PSG, ou est-ce qu'on peut faire jouer cette équipe autrement maintenant qu'on a peut-être plus de possibilités et de profils différents dans l'effectif?
Bonne question tactique et sur laquelle, à mon avis, l'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est déjà penché. En tout cas, un chiffre quand même très intéressant, c'est que Kylian Mbappé, avec ce triplé ce soir, bat 2 records. D'abord, il est le premier de son âge à inscrire un triplé en tant que remplaçant. Il a inscrit 3 buts en 31 minutes en Ligue des Champions, bien sûr. Et puis le premier joueur de 20 ans et 306 jours à atteindre les 17 buts inscrits en Ligue des Champions à partir
de
ce soir.
Il a effacé des tablettes un certain Lionel Messi.
Voilà, exactement.
Ce qui est quand même exceptionnel.
Mmh, ouais, il essaye de.
Il banalise l'exceptionnel, en
voilà,
fait. C'est
après,
ça.
La différence avec Messi, c'est que Messi, il a très vite gagné des titres, notamment en Europe. Et c'est là-dessus qu'il est attendu aussi.
Mbappé a gagné une Coupe du Monde, que Messi n'a jamais fait, mais en club, effectivement. Voilà. Il est encore en retard sur les temps de passage exceptionnels de Messi.
Il faut bonifier, évidemment. Et puis, lui, comme les autres, et le Paris Saint-Germain, il ne faut pas se leurrer, ils sont attendus Bah c'est plus tard, évidemment. Mmh. C'est là que ça commencera.
Plutôt même au début du printemps, parce que.
Bon alors ceux qui seront peut-être là en hiver prochain et alors, quand on abordera les huitièmes de finale, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le Real Madrid qui ce soir, au moins, s'est acheté du temps ou du sursis.
La récupération d'Eden Hazard, l'homme que vous vouliez voir. Karim Benzema, 1-2. Allez, Eden Hazard, il n'est pas en position d'enjeu, il préfère donner ce ballon. Oh, que c'est magnifique ! Que c'est magnifique ! Une action collective pour venir en aide à un homme sur le banc, Zinedine Zidane. Ce sont ces joueurs qui ont parlé sur ce coup-là. Quelle classe dans cette action !
Ces joueurs, oui, et d'ailleurs, ils étaient nombreux à être sur le terrain ce soir. Nabil, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'ils se sont achetés un sursis, mais dans la douleur, parce que c'est seulement 1-0. Alors, on sait que c'est pas simple de
PSG
jouer.
PSG a gagné 1-0
à Galatasaray. On a vu quand même qu'ils ont tremblé un peu jusqu'à la fin. Il y avait une super ambiance dans le stade, qui voulait vraiment porter l'équipe. Mais finalement, le Real a fait le plus important.
Les tauliers, surtout, ont répondu présent. Alors, ce qui est cocasse.
On a vu qu'il y avait Marcelo, Ramos.
Voilà. Et puis on a vu les déclarations, alors c'est sûr qu'ils sont peut-être plus au sommet de leur forme pour certains, et peut-être que le déclin est amorcé. Alors, mais celui qui ce soir a répondu en marquant, c'est Toni Kroos, c'est un garçon qui est contesté. Mais moi, celui que je retiens le plus, très sincèrement, c'est Courtois. Parce que Courtois sauve plusieurs situations.
Avant l'ouverture du
très, très chaude. Alors on sait que sa relation avec Zidane, elle est un peu ambiguë et que Zidane aurait préféré conserver Keylor Navas, mais ça reste des champions et les champions, ils ont de l'orgueil. Et sur ce match, moi ce qui m'a plus, c'est pas tellement leur football, mais c'est l'attitude, la réaction et le fait de dire, et puis le fait qu'ils fassent vraiment corps avec leur entraîneur, parce que vous avez raison de le rappeler. Si ce soir le Real Madrid était défait du côté de Galatasaray, on aurait parlé de José.
Apparemment,
on
a vu. Apparemment, la presse espagnole.
Même Zidane, il l'avait compris parce que il s'en est presque pas caché en conférence de presse, je trouve, quoi.
Et alors, écoutons Sergio Ramos. C'était avant le match, mais écoutons justement un peu cette déclaration d'amour du capitaine pour son vestiaire envers l'entraîneur Zinedine Zidane.
C'est vrai que dans le football, certains joueurs ou certains entraîneurs sont traités de façon différente. Mais ne me faites pas dire des noms que je n'ai pas dit. C'est vrai que ça serait facile pour moi de dire que Zizou sera notre entraîneur jusqu'à la fin de la saison et qu'il n'y aura plus jamais de spéculation autour de son avenir. Mais en football, tout tourne autour des résultats. Et à la fin, l'entraîneur en dépend. À chaque fois qu'on fait un nul ou qu'on perd un match, les rumeurs autour de l'entraîneur sont bizarres pour le club, pour l'entraîneur et pour les joueurs. Je comprends que pour la presse, ces informations sont toujours très intéressantes. Mais pour nous, parler tous les jours des entraîneurs qui pourraient arriver au Real, c'est juste fatigant. À Madrid, on le sait, que tout dépend des résultats. Et tous les entraîneurs le savent aussi. On verra ce qu'il se passe.
Et il avait précisé, tous les joueurs sont 100% ou 200%.
Même Gareth Bale, l'ami Bon, sur le terrain, il a fait le terrain. Mais après, c'est normal, des états d'âme dans un vestiaire, il y en a et c'est logique. Ceux qui jouent moins, surtout quand les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Encore que les résultats, concrètement, en Liga, c'est une défaite. En Ligue des Champions, c'est vrai que c'est un peu plus problématique. C'est surtout le contenu qu'on sente qu'il est difficile pour lui de transformer cette équipe en machine à gagner. Et ce qui est encore plus perturbant dans cette histoire, c'est qu'il est parti parce qu'il estimait que cet effectif était en fin de cycle. Mais finalement,
il revient avec les mêmes, pratiquement.
Il revient avec les mêmes. Et le relais n'a pas été réellement pris par les nouvelles recrues, même si ce soir, Eden Hazard,
il est un peu mieux.
Et puis, il va monter en puissance. À la limite, la seule bonne nouvelle.
Et il avait mis aussi un jeune, il avait mis Rodrigo quand même, le jeune brésilien d'entrée. Donc il essaye aussi de.
Il a été meilleur que Vinicius contre Mallorca.
Tout à fait.
Il faut le dire.
Mais après il y aura toujours des interrogations sur ce Real et puis Zidane sera toujours sur un fil. Mais de toute façon, on va pas se leurrer. C'était le fait de revenir. On sait tous que c'est très difficile de faire aussi bien que ce qu'il a pu faire.
Ouais, mais là, entre faire aussi bien, gagner 3 Ligues des Champions, personne va lui demander.
Non,
mais
faire mieux, c'était gagner le championnat.
Ce qui est très inquiétant, c'est que vous voyez des victoires quand le Real gagne, parce que le Real gagne des matchs, il faut pas noircir non plus, mais elles sont toujours à l'arraché. Encore ce soir, Thibaut Courtois sauve 2 balles de but avant l'ouverture du score. La suite du match est assez équilibrée. On peut pas dire que le Real se balade.
Non, on les a souvent vus défendre.
C'est compliqué. Alors oui, Courtois était mieux ce soir. Oui, Hazard semble reprendre un peu du poil de la bête, mais après les matchs un peu chaotiques qu'il a fait depuis son arrivée, c'est pas très difficile de faire mieux. Ça, c'est pas gentil pour lui, mais c'est ouais. la vérité. Mais c'est vrai que on sent pas le commencement en fait d'une réponse tactique. On sent que quand les grands joueurs qui composent le vestiaire et dont Ramos parle très bien se rebiffent ensemble, oui, il y a encore des souvenirs d'un vécu commun extraordinaire non, et une qualité.
Il y a de l'envie quand même.
Et de l'envie, mais ça vient des tripes, ça vient pas d'une réponse tactique. Et moi, c'est ça qui m'inquiète quand je vois le Real semaine après semaine. Je vois pas des choses se mettre en place. Je vois pas un nouveau cours tactique arriver. On sent que c'est un peu des bouts de ficelle, quoi.
Mais on se souvient, effectivement, c'est ce à quoi faisait allusion Ramos. Dès qu'il y avait des matchs nuls ou des défaites avec Lopetegui, avec Solari, immédiatement, on parle de crise au Real, on parle de, et là, eh bien, même quand c'est le grand Zidane, eh bien, ça ne change pas. En tout cas, pour ce qui est de ce groupe, eh bien, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont donc fait le travail et, face à Bruges et à Galatasaray, c'était, en tout cas, les deux clubs qui paraissaient logiques. Devoir s'imposer dans ce groupe et c'est ce qu'on verra. Il y a eu aussi d'autres matchs et d'autres le score fleuve hein, ce soir. On peut peut-être s'arrêter sur le score de Tottenham. Tottenham, on se souvient ouais. De la gifle qu'ils avaient prise à domicile, infligée par le Bayern Munich et notamment leur Gnabry, ouais. leur super buteur. Et là, eh bien, c'est Tottenham qui a marqué 5-0 contre l'étoile rouge de Belgrade. Il fallait un bouc émissaire, Nabil.
Bah là aussi, Annie, un entraîneur était clairement en danger, c'est Mauricio.
Il y a un doublé de Kane aussi.
Kane qui s'est un peu
réveillé. Et de Son.
Alors, ils ont de la chance parce qu'ils sont quand même dans une poule qui est relativement faible. Alors, il y a le Bayern qui survole les débats et c'est vrai que le 7-1 ou 7-2 était extrêmement gênant pour le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Mais encore une fois, cette équipe de Tottenham en première ligue, elle est pour l'instant poussive. Elle a encore été tenue en échec chez elle. Maintenant, elle a joué face à une équipe de l'étoile rouge de Belgrade, qui est très sincèrement une équipe très moyenne. Faut pas non plus. Non, mais je veux dire, 5-0, c'est bien. J'aime pas cette expression là, mais pas grand chose en face. Mais c'est surtout la question de Pochettino comme Zidane
dans un autre pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que c'est des effectifs qu'on jugeait très bons. Que les dirigeants du club n'ont pas beaucoup renouvelé. Mmh. Il y a eu, dans les deux cas, il y a eu pendant plusieurs mercato de suite peu de recrues, voire parfois pour Tottenham même zéro l'été dernier.
Ouais.
Et à la fin, ça finit par se payer parce que d'une part, les joueurs prennent de l'âge pour certains, et d'autre part, ils perdent en envie parce que à force d'avoir beaucoup gagné. Ils ont moins faim.
Ou pas gagner de titres et se dire que peut-être que c'est le c'est plus vert ailleurs, voilà. Comme Kane, par exemple, qui a pas gagné de titre avec cette équipe de Tottenham.
Ils se disent que l'histoire ne repassera pas forcément les plans pour Tottenham.
Ils ont fait une finale de Ligue des Champions.
Voilà. Oui, mais malheureusement, ils l'ont perdu et quand on en perd, c'est pas facile. Faut attendre, faut se remettre en question et peut-être que tous n'ont pas envie de le faire en même temps.
Liverpool l'avait très bien fait, donc pourquoi pas.
C'est notre dynamique. Après, Klopp, à la fin de la finale de la Ligue des Champions, n'avait pas expliqué que s'il avait remporté le titre, il serait parti. C'est ce qu'a dit Pochettino. Pochettino a dit, si on avait gagné, je serais parti. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que c'est une fin de cycle.
Eh oui.
Et donc, quel message il envoie à ses
joueurs?
Le manque d'envie, le manque de dalle concerne aussi l'entraîneur, en fait.
Dans le même groupe, le Bayern Munich, mené à l'Olympiakos, a finalement remporté ce match, doublé de Lewandowski et but aussi de Corentin Tolisso, le français. Mais c'est un match à l'arraché parce que les Grecs se sont bien battus, 3-2, le score final finalement. Donc voilà pour ce qui est de ce deuxième groupe de la soirée. Ils ont joué en fin d'après-midi, Shakhtar Donetsk et le Dynamo Zagreb. Score de 2-2, score à égalité, on va dire, entre ces deux équipes. Manchester City, Atalanta, Bergame. Alors on sait que l'Atalanta, c'est sa première la première fois qu'ils disputent la Ligue des Champions. On a vu qu'ils ont eu du mal déjà depuis le début. Là, ils avaient ouvert le score à City.
Sur une erreur de Fernandinho, enfin une perte de balle de Benjamin Mendy qui n'est pas encore totalement prêt,
remis,
ni à 100%.
Mais
et
qui
puis
joue.
Fernandinho qui dépanne dans l'axe, qui a commis une faute un peu
évitable.
Un peu évitable. a permis à Bergame. Bergame, en fait, le score ne reflète pas forcément la réalité de ce match, parce que l'Atalanta Bergame, c'est une équipe qui joue bien, qui est bien organisée, qui se projetait bien. Et je peux vous dire que les joueurs de City ont eu beaucoup plus de mal qu'on peut le penser.
Mais jusqu'au premier but de City qui a un peu tout débloqué. Mais c'est vrai que pendant les temps, notre correspondant en Italie, Matteo Cioffi, nous disait c'est incroyable, quoi. L'Atalanta dominait plutôt et marque le premier but.
Et du coup, ils attendent toujours leur premier point en Ligue des Champions, 0 en 3 matchs. C'est pas cher payé, effectivement, pour leur qualité de jeu. Et c'est un peu comme Bruges, avec un meilleur effectif et plus de qualité. C'est une équipe qui joue crânement sa chance, qui essaye d'imposer son jeu, qui n'attend pas l'adversaire. Et ça, c'est plutôt, encore une fois, c'est pour ça qu'on a des matchs ouverts. Ils n'ont pas fermé le jeu, même quand City s'est mis à empiler les buts. Donc moi, je trouve que c'est bien de voir ça en Ligue des Champions, même si bon, et le score est sans appel au final, mais c'est effectivement cruel, oui.
L'autre groupe, le groupe D, eh bien, l'Atlético Madrid a gagné, comme à l'habitude, 1-0. On fait pas plus.
Avec un bon coaching, avec l'entrée de Morata.
Morata, auteur du but. C'était face au Bayer Leverkusen, mais pareil, là, un peu dans la douleur, le but intervient.
C'est une équipe qui n'a plus de marge, tout simplement. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui se renouvelle, qui est en transition.
Avec João Félix, il faut le noter, blessé. Donc là, le but intervient à 78e minute. Et c'est vrai que c'était un moment
Mais là, ce qui est intéressant, contrairement au Real, effectivement, il y a aussi une transition. Mais je trouve que la prise de conscience de la fin de cycle a été meilleure à l'Atlético. Le renouvellement a été meilleur. L'arrivée de João
Félix... C'était plus violent aussi. Il y a 3 ou 4 joueurs essentiels qui sont partis en même temps, la même année. Donc c'était plus visible.
Dans le style de jeu, je trouve qu'on a plus d'évolution et de réponse tactique de la part du coach que ce qu'on voit au Real.
Mais
il faut le reconnaître.
C'est un grand responsable et tactique. Lui, on sait que c'est vraiment.
Il était comme Zidane lors de ses 3 victoires. Simeone jusqu'alors était sur une dynamique unique. Elle a changé avec les départs nombreux de cet été.
Il était obligé un petit peu.
Et là, je trouve qu'il arrive bien à renouveler le logiciel, ce que Zidane n'arrive pas à faire avec cette équipe en fin de cycle. Il n'arrive pas à trouver les ficelles pour la réanimer, quoi.
Et puis, la Juventus Turin s'est fait très peur ce soir
face au Locomotive.
Exactement, Locomotive Moscou. Ils avaient marqué à la 30e minute et ils ont mené jusqu'à la 77e. On se demandait dans cette équipe quand même de la Juve, on connaît leurs ambitions sur la Ligue des Champions. On connaît aussi leur envie pour ce qui est et le besoin peut-être aussi de convaincre de Sarri, dont c'est la première saison à la tête de la Juve. Bon, c'est pas Cristiano là, c'est un doublé de l'Argentin, Paolo Dybala.
Qui est complètement relancé par le coach, par Sarri, depuis qu'il est arrivé. Il devait partir à l'intersaison, je vous rappelle qu'il devait venir au PSG ou aller à Manchester United. Il a refusé Manchester United, donc il l'a complètement remobilisé. On l'avait vu lors du choc en Serie A face à l'Inter. Après, je pense que bon, sur ce match-là, il n'y a pas forcément de conclusion à tirer.
S'ils perdaient, ça aurait été compliqué au point de vue point.
Ça aurait été gênant, mais je pense qu'ils ont peut-être fait preuve d'un petit peu de suffisance et de relâchement. Ça peut arriver également, parce que bon, ils ont vu le Locomotive Moscou arriver, avec même pas dans la même périodicité de championnat du côté russe. Mais bon, voilà, il n'y a pas que Cristiano Ronaldo, il n'y a pas qu'Higuain, il y a Dybala qui est là. On parlait du Paris Saint-Germain avec leurs 4 fantastiques.
Exactement.
Du côté de la Juve, c'est quand même très sérieux.
De toute façon, si on veut aller très loin en Ligue des Champions.
Il y a du banc, il y a de la qualité, des postes doublés partout. Donc oui, ils peuvent aller loin. Dybala, effectivement, c'est un vrai, comme une renaissance, quoi. C'est un retour de flamme un petit peu de ce joueur, et là il a débloqué le match comme un grand joueur, comme seul un grand joueur peut le faire, même si la Juve n'a pas été mise en danger à tous les instants, mais ils étaient quand même menés contre une équipe bien organisée, bien recroquevillée, donc fallait aller débloquer la situation, et Dybala l'a bien fait.
Voilà pour ce qui est donc de cette soirée, troisième soirée de phase de groupe de Ligue des Champions, avec donc ces scores fleuves. On va s'amuser peut-être à les compter, les buts d'ailleurs, on vous donnera tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup ce soir. Pour l'instant, nous allons vous parler Ballon d'Or, on va revenir. Je vous demanderai votre avis, messieurs, d'ici peu, mais pour l'instant, on va écouter le débat que nous avions tout à l'heure avec notamment Philippe Doucet et Franck Simon dans la première partie de Radio Foot International. La liste des étoiles, elle est bien là, Franck Simon, toute chaude.
Ouais, depuis depuis lundi soir, effectivement.
Depuis moins de 24 heures.
Ouais, moins de 24 heures.
Et les jurés, tous les jurés, ceux qui nous écoutent, en tout cas à travers le monde et notamment à travers l'Afrique, eh bien, les jurés ont donc la parole pour le Ballon d'Or, bien sûr.
Ils ont
commencé
à recevoir.
Ça y est déjà.
Oui, oui, bien sûr. Il y a même eu des. Je peux vous donner faire une petite confidence.
Ah, alors, les premiers votes.
Ouais,
une estimation au bout de deux votes.
Ouais, ça c'est pour Xavier Barret, ça, Philippe.
Regardez en Bolivie, ça a porté malheur à l'élection présidentielle.
En fait, on envoie les listes, puisqu'en fait les jurés sont appelés à voter non seulement sur le Ballon d'Or, mais aussi sur le trophée du meilleur gardien, le trophée Yachine, trophée du meilleur joueur.
Tout nouveau.
Voilà, il y a un jury indépendant de cela pour le Ballon d'Or féminin, un jury de spécialistes. Et en fait, on a commencé, ils nous ont communiqué tous leurs emails, parfois une, deux, trois adresses. Ben on a déjà eu des retours, mais c'est pour nous dire qu'en fait, le personne que vous demandez n'est plus à cette adresse. Donc
très intéressant.
Voilà, notamment, je dis ça parce que j'ai eu un échange avec un de mes responsables, notamment sur deux jurés africains, et comme j'avais eu à échanger avec eux tout dernièrement, j'avais leur adresse la bonne en fait. Donc on leur a communiqué. On a communiqué ça depuis. Tout est rentré dans l'ordre. Ils ont reçu leur bulletin de vote et ils vont.
Quand les jurés votent tout de suite ou ils attendent un peu?
C'est ça, Philippe, le problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien décider de voter à réception de ce courrier, de cet email, sur une adresse dont je ne vous donnerai pas l'intitulé, mais qui est une adresse.
Sécurisée, j'imagine.
Sécurisée, voilà.
Et dédiée, sans doute.
Dédiée et sécurisée. Donc il y a une seule personne qui réceptionne.
Le ministère de l'Intérieur.
Le ministère de l'Intérieur. Et c'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est mon rédacteur en chef. Et donc, comment ils ont commencé à voter dès ce matin.
Ah oui,
ah oui, a priori.
Certains décident n'attendent pas le dernier mois de compétition. Ils n'attendent pas du tout.
Non, parce qu'ils n'ont même pas un mois pour voter. Ils ont un peu moins de trois semaines.
Ah, d'accord.
Et on leur donne la consigne. De toute façon, c'est pas ces dernières semaines qui changeront beaucoup de choses à l'affaire. Ils ont, je pense, suffisamment de repères. Donc voilà, on leur dit généralement, n'attendez pas les 15 jours à venir. Si vous avez vos 5 noms, je rappelle qu'on distribue 6, 4, 3, 2 et 1 point. Si vous avez vos 5 noms parmi les 30, vous nous envoyez ça, enfin vous nous envoyez à l'adresse dédiée. Et ils ont commencé.
Alors, la liste donc des 30 noms pour ce qui est du Ballon d'Or, eh bien, elle est longue, peut-être trop longue, je ne sais pas. Un seul élu, en tout cas. Ce qui saute aux yeux, je ne sais pas si ça vous a sauté à tous aux yeux.
Mais... Il y a beaucoup de Néerlandais.
Il n'y a pas d'Espagnols.
Non, mais surtout, il n'y a pas le récipiendaire de l'an dernier.
Ah oui. Étonnant, non ?
Ben oui. David Lortolari, pas de Luka Modric, hein, le Croate. C'est logique, en fait.
Oui, mais c'est effectivement une exception. Enfin, j'ai pas.
Alejandro Valente, ouais. N'est-ce pas, notre chef à tous, mais qui connaît aussi bien le déroulé de ce prix. Il dit qu'auparavant, il n'y avait pas de liste en fait. On votait. Il n'y avait pas une liste comme ça avant 1995, je crois.
Ouais,
donc ça veut dire
qu'il a raison. Ouais.
Voilà.
Avant 95, oui.
Ouais. Donc, après, il y a eu une liste de 50.
Mmh. Ouais, puis ensuite, on l'a.
Et ensuite, réduite à 30. Voilà, mais effectivement, au départ, il n'y avait pas de liste. Donc, finalement, peut-être
ne pas pouvoir se succéder à soi-même, c'est arrivé assez régulièrement, finalement.
Mmh. Ouais, bien sûr. Bon.
Mais, Annie, l'absence de Modric, je veux bien considérer qu'elle soit logique sur le plan sportif. Il n'a pas fait du tout la même année là qu'il a fait l'année précédente. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi, si on se restreint aux critères sportifs, pourquoi il n'y a pas Joshua Kimmich dans cette liste? Qui est le meilleur joueur d'Europe, à mon sens, actuellement.
Ainsi
pourquoi
on a décidé...
il n'est pas dans la liste?
Ouais, bah parce qu'il n'y a que 30
noms. Tu as raison,
noms.
David. Non, mais ainsi, on a décidé la rédaction de France Football. Je comprends parfaitement, mais il y a eu d'autres, j'imagine, cas de conscience. Malheureusement, je n'ai pas fait partie de ces débats, mais j'imagine qu'il y a eu effectivement d'autres cas de conscience, des décisions à prendre, des arbitrages.
Alors, parce que ce débat est éternel et on va tous trouver tel joueur qui devrait être parmi les 30 et qui n'y est pas.
Il y en a un qui est là.
Mais la seule chose que je voulais dire, c'est que de toute façon, les 15 derniers, ceux du 16e au 30e, s'ils font 5 points de vote, c'est un grand maximum. Donc faut vraiment pas se focaliser sur... C'est comme quand on se focalise sur le 23e joueur d'une liste à l'Euro ou à la Coupe du Monde. ce joueur-là, il jouera 0 minute. Alors, ça mérite pas des débats fantastiques pendant des heures.
Donc, les Africains, en tout cas, sont là en nombre. Et celui qui avait été oublié, horriblement oublié, on peut dire ça, par The Best, eh bien, Sadio Mané, le lion sénégalais, il est là. Et comme un gamin, on va l'entendre, il en rêve. Et vous allez l'entendre, il en rêve à sa manière, c'est-à-dire très modestement.
Ça a toujours été un rêve de gamin. Voilà, c'est le fruit d'un travail qui a été longtemps. Là, donc, je ne me focalise pas trop, c'est pas aussi une obsession. Je suis au service du collectif, mais après, si je parviens à me distinguer dans ce collectif, bien sûr, ça sera exceptionnel pour moi de gagner ce Ballon d'Or. Et ça a toujours été mon rêve. Et quand le rêve se réalise, c'est toujours exceptionnel. Je serai fier, bien sûr.
Franck Simon, vous avez la baguette magique pour réaliser le rêve de Sadio Mané?
Si ça ne tenait qu'à moi, je lui accorderais volontiers. Je n'ai absolument aucun pouvoir. La seule chose qu'on m'ait demandé, je l'ai dit ici à 150 reprises environ ces dernières années, je suis là pour essayer de faire en sorte que les jurés africains, nos collègues, nos chers collègues africains, soient là, voilà, crédibiliser ça et donc faire aussi des arbitrages. C'est pas toujours facile, il y a des déçus, etc. Il y a eu aussi un renouvellement cette année au niveau du jury. Du côté des 54 jurés africains. Mais je n'ai pas de baguette magique. Après,
tout le continent vote à chaque fois, Franck. Non, les 54 jurés.
Non, il y a malheureusement, il y a eu des fois des, je vais pas dire des défections, mais des gars qui n'ont pas... Enfin, faut savoir aussi que The Best, enfin la FIFA, nous a aussi piqué, je le dis le mot, hein, en fait. Hein, ils nous ont...
Piqué des jurés.
Ils nous ont piqué des jurés. Certains nous ont dit, mais là, on a voté pour vous. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils avaient voté pour le trophée de l'autre institution. C'est très embêtant parce qu'à la base, ce sont des jurés que nous sommes allés, susciter. Pardon ?
Ça sera encore Messi, alors.
Non, parce que il y a 180 et quelques votants et il n'y a pas que des Africains, vous voyez. Et je vous rappelle que...
Il n'y a pas beaucoup de Sud-Américains dans les votants.
Dans cette liste, il y en a peu.
Oui, effectivement.
Je voulais juste aussi rappeler par rapport à, jusqu'à présent, au seul ballon d'or africain qui est monsieur le président de la République du Libéria, son excellence Georges Weah. Il a été élu par un juré européen à l'époque. Mmh. Pour ceux qui pensent que les Européens ne votent pas pour les Africains, c'est une immense
On a déjà vu à The Best qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne votent pas des Africains.
Mais y compris pour le ballon d'or.
Mais
on n'est pas là pour faire du communautarisme. Exactement. Si aujourd'hui les jurés sud-américains, asiatiques, européens, africains se décident et considèrent que Sadio Mané ou un autre a les qualités, la valeur.
Ils ont la liberté.
Ils ont toute cette liberté et nous on n'est pas là pour les influencer. En tout cas, moi, je suis loin de tout ça.
Celui qui présentera la soirée le 2 décembre prochain au Théâtre du Châtelet, eh bien, c'est un éléphant qui parle d'un lion, un éléphant historique, on va dire. C'est évidemment Didier Drogba qui sera là. Et il était hier soir dans l'émission de nos confrères, l'équipe du soir, et lui, eh bien, il voterait apparemment, mais il ne vote pas. Il voterait bien Sadio Mané.
Il est encore journaliste. Peut-être président.
Sadio Mané, même s'il a fait une CAN moyenne, remporte la Ligue des Champions. Il fait un championnat de première ligue exceptionnel. Pour moi, Mané, aujourd'hui, c'est un peu comme Kanté. C'est pas quelqu'un d'extravagant. C'est pas quelqu'un qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. On lui fait pas une publicité énorme, mais le talent est là, pur. Déjà, il y a 2 ans, en finale de la Ligue des Champions, c'est lui qui remet Liverpool dans le coup, par ses accélérations. Et il a fait ça toute la saison dernière.
Voilà l'avis de Didier Drogba qui, rappelons-le, donc ne vote pas. J'aurais 2 questions et il nous reste pas beaucoup. Alors, je vais d'abord en poser une à Philippe Doucet. Dans les 30, il y a bien sûr encore Messi et Cristiano Ronaldo. Ils peuvent gagner encore, Philippe ?
Messi peut gagner. Ronaldo, je ne pense pas. Il n'a pas fait la saison, me semble-t-il. Bah, il n'a pas fait la saison. Qu'a-t-il fait cette saison ? Il a gagné la Ligue des Nations. Bon, je pense pas que ça suffise. Et gagner le championnat d'Italie, ça ne suffit pas non plus. Il a même pas été le meilleur buteur en Italie. Donc non, il a pas fait une saison exceptionnelle. Pas comme il y a 2 ans, oui. Avec en gagnant la Ligue des Champions et autres, où il a été un vainqueur surpuissant et qui a dominé tout le monde. Non, Messi a sa chance parce qu'il a été un extraterrestre tout au long de la saison dernière. Le seul truc, c'est qu'il y a un soir à Liverpool où tout a changé. Parce que si le Barça est en finale, il n'y a même pas de débat. Non, oui. Mais la Copa América, elle pèse peu, je pense.
Et la CAN, elle pèse ou pas?
À mon avis, très peu dans l'esprit des gens et des jurés.
Surtout, vous imaginez les votants asiatiques.
C'est la Ligue des Champions. qui est le marqueur principal. Et ce soir-là, à Liverpool, tout a basculé parce que jusqu'alors, je pense qu'après le match à Lille, Messi était déjà élu. Et après le match retour, il ne l'était plus.
Une petite question pour l'auteur d'un livre sur les gardiens de but.
Aïe.
David Lortolari. Le tout nouveau prix Lev Yashin. Ouais. 5 gardiens en piste, hein, c'est ça?
Oui, dont André Onana, le Camerounais.
Exactement.
On est très heureux.
Ça veut dire qu'ils n'auront plus jamais de vrai ballon d'or?
Oui, mais c'est un prix qui est quand même qui me plaît, moi, qui est prestigieux, ne serait-ce que son nom. Le problème, c'est que Marc-André Ter Stegen, qui est probablement le meilleur aujourd'hui, est remplaçant en équipe nationale. Donc là, il y a un problème et un mais dilemme pour les votants.
Il a gagné il a gagné la Copa América.
Peut-être
lui,
c'est
tiens,
la solution, effectivement. Exact.
Franck, évidemment, vous trouvez ça super.
Bien sûr. Pour la corporation.
On y reviendra.
Mais un gardien ne peut plus être Ballon d'Or, Franck.
Mais si, bien
mais
entendu.
Si,
quand même.
Bien
sûr, il y en a même dans la liste.
Elle vous a plu cette liste? Alors, Nabil Djellit, vous qui travaillez avec France Football.
Oui, après, c'est mon opinion personnelle. Mmh. Là, je parle pas au nom de France Foot.
Non, bien sûr, mais vous l'avez vu quand même. Ouais. Vous êtes dans un peu dans les cuisines.
Oui, bah la liste elle me plaît. J'aurais juste aimé peut-être voir Hakim Ziyech, le Marocain, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs de l'Ajax d'Amsterdam, mais pas lui. S'il y en a un qui suscite des émotions chez moi, en règle générale, c'est plutôt ce joueur. Après, je trouve que les absences de Neymar, Modric ou Pogba, elles sont logiques et justifiées. Et je suis quand même très heureux de voir que Kémarès, par exemple, qui a gagné la Coupe d'Afrique avec l'Algérie, donc la CAN est quand même aussi du coup considérée et prise au sérieux.
Il y a 5 joueurs africains et 5 joueurs latino-américains.
C'est la première fois qu'il y en a autant. C'est incroyable.
L'Afrique, il y a déjà eu 6 joueurs en 2007.
Oui, mais il y avait plus de Sud-Américains.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a l'impression quand même que à force de se montrer, à force aussi qu'on les voit dans les grandes compétitions et d'avoir du talent, et bien ça peut compter. Mais Patrick Juillard.
Moi, j'aime bien cette liste dans l'ensemble. Déjà pour ce que j'ai dit, parce qu'il y a 5 africains et qu'on a pris. Et fait, on les a pas pris de haut, on les a considérés suffisamment pour les nommer, ce qui est déjà une belle chose. Mmh. Il aurait pu y en avoir plus. N'oublions pas quand même que dans la liste des gardiens, il y a André Onana.
Bien sûr.
Et dans la liste des espoirs, il y a Samuel Chukwueze, le Nigérian de Villarreal. Donc l'Afrique est bien représentée. Il y a que dans la liste du Ballon d'Or féminin qu'il n'y a pas d'Africaine. Donc ça, c'est une première bonne chose. Après, on a encore une fois le duopole Messi-Cristiano Ronaldo. Alors, on ne s'en lasse pas en tant que spectateur. J'espère quand même que cette année, les votants encore vont vraiment voter en fonction de ce qui s'est passé sur l'année. Et donc,
on
sortira de tout ça. Quoi.
Chez les filles, en tout cas, qui pour succéder à la blonde norvégienne Ada Hegerberg? Alors là, on a l'impression que pour une fois, les critères sont clairs et qu'une compétition, une victoire en compétition, une capitaine victoire en compétition, ça va compter. Et c'est évidemment, elle n'est pas blonde, elle est rosée, on va dire. Et c'est Megan Rapinoe, l'américaine, qui fait figure de très, très grande favorite.
Bah, ce qui est assez logique, en plus, elle est.
Ce qui est logique, effectivement, mais c'est pour ça que.
Elle est charismatique, c'est un leader
sûr. En temps de Coupe du Monde, on a bien vu que.
La meilleure joueuse a été blessée une bonne partie de la Coupe du Monde, c'est-à-dire Jennifer Marossan, l'Allemande de l'OL. Donc, le champ est libre pour.
Ada
Hegerberg n'a pas joué.
Puis elle a une personnalité.
Le champ est libre.
Elle a une personnalité un peu hors du commun, puisqu'elle s'est également positionnée sur des faits de société aux États-Unis. Donc, elle dégage quelque chose qui est à part.
Qui est incomparable, effectivement. Et en plus, Hegerberg, elle, si elle est encore sur la liste, mais vu qu'elle n'a pas participé à la Coupe du Monde, elle a moins brillé. Il y a la Ligue des Champions en Europe, mais sur d'autres continents, on sait en Afrique aussi, il y a la Ligue des Champions. En Amérique du Sud, ça s'appelle la Copa Libertadores et d'ici quelques heures, exactement à 2h30 du matin, heure de Paris, il y a un match important, très important, et notamment important pour un monsieur qui s'appelle Carlos Bianchi, important aussi pour un autre monsieur qui s'appelle Alejandro Valente. La musique, la fête et les bombos, comme on dit du côté de Buenos Aires, dans la Bombonera, le fameux stade en fer à cheval, ce stade en U de la Boca et Boca Juniors qui rencontre River Plate. C'est en demi-finale de la Copa Libertadores. La nuit d'après, ça sera Flamengo, Gremio, évidemment. C'est les matchs retour. River Plate l'avait emporté 2-0 au match aller. ça risque d'être
ça
dur.
Ça va être dur. Je suis pas sûr que Carlos et Alejandro soient pour la même équipe ce soir, mais
exactement.
C'est peut-être que mon petit doigt qui me le dit.
Il y en a un du côté de Boca et l'autre du côté de River Plate, et on verra qui gagnera. On en parlera dans Radio Foot International aussi. Merci beaucoup, messieurs,
merci
d'avoir veillé
merci.
Avec nous. Merci à David Finzel et à Laurent Salerno. Et on vous dit fidèlement demain aussi, il y aura deuxième émission. Merci à tous.
Merci. 7